La franc-maçonnerie, un mot qui intrigue, fascine, mais qui suscite aussi de la méfiance. Organisation fraternelle discrète, née officiellement au XVIIIe siècle, elle puise ses racines dans les anciennes guildes de tailleurs de pierre du Moyen-Âge. Les francs-maçons se réunissent dans des loges pour mener des travaux symboliques, philosophiques et parfois caritatifs. Mais depuis des siècles, la franc-maçonnerie alimente bien des fantasmes. Elle est régulièrement la cible de théories du complot. Certains affirment qu'elle tire les ficelles du pouvoir et de la finance à l'échelle mondiale, qu'elle serait impliquée dans des assassinats célèbres, voire qu'elle cacherait un culte voué à Satan. Pour faire la lumière sur ce sujet souvent mal compris, nous avons reçu deux francs-maçons francophones basés à Toronto, Guy Rich et Jean-Luc. Ils ont accepté de lever le voile sur leur engagement, leur parcours et de répondre aux idées reçues qui entourent la franc-maçonnerie. Que signifie être franc-maçon aujourd'hui ?
Le franc-maçon d'aujourd'hui, d'abord, le franc-maçon, c'est l'action sur soi-même, sur la société ensuite, puisque tel est notre principe, se changer d'abord avant de changer le monde ou, pour dire, comme on parle aujourd'hui, se bouger dans le monde profane. Donc, c'est un citoyen engagé dans la recherche de la perfection personnelle et l'amélioration de la société.
C'est une démarche initiatique. Dans le mot initiatique, on trouve le préfixe init, ça c'est le commencement. Hein. Donc, ça passe par un renouveau. Donc, c'est une démarche initiatique axée sur la liberté de penser, l'humilité, la fraternité, et une volonté, effectivement, de s'améliorer, d'une élévation spirituelle.
Et en termes de culte, pour les auditeurs qui nous écoutent, comment se manifeste un culte concrètement, un rite concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas et qui seraient curieux de savoir comment ça se déroule?
Le rite, c'est la régulation de la cérémonie. Ça passe par un schéma de questions-réponses.
Si je peux ajouter là-dessus, dans tous les processus de transformation, il y a toujours une procédure. Mais cette procédure, que chez nous on appelle le rite, c'est le rite, c'est toutes les méthodes maçonniques qu'on utilise pour pouvoir parfaire l'humain à travers l'écoute, à travers des paroles, à travers des échanges structurés au sein du temple.
Et en tant que francophone ici à Toronto, comment vous vivez votre appartenance à la franc-maçonnerie dans un environnement majoritairement anglophone ?
Au niveau de notre rite et de nos rencontres, c'est un petit peu limité, malgré que nous avons l'opportunité de visiter une autre obédience, le droit humain. C'est donc relativement limité puisqu'il n'y a pas de grande loge de la Grande Loge de France à Toronto. Donc, c'est pour ça que nous œuvrons en ce moment avec Guy Rich pour essayer d'en créer une. Les bases ont été posées avec la Grande Loge de France, avec notre grand maître, Thierry Zaveroni. Donc, la franc-maçonnerie de la Grande Loge de France, elle est très présente au Canada, puisque à Québec, il y a des loges qui sont florissantes. Et donc, nous allons les visiter fréquemment.
Il faut savoir que dans la franc-maçonnerie, on est façonné par des valeurs universelles, que ce soit au Gabon, que ce soit au Canada, que ce soit en France. Les principes sont les mêmes. Donc, on travaille à ces valeurs universelles. Donc, que ce soit en Toronto, comme vient de dire Jean-Luc, on est en train d'œuvrer pour créer une loge de la Grande Loge de France à Toronto et justement pour continuer cet esprit de développer ces valeurs parmi probablement les immigrants qui sont venus ici, qui peut-être appartiennent à d'autres loges et peuvent peut-être nous rejoindre dans cette démarche.
Et Jean-Luc, tu as un peu répondu à la question tout à l'heure. Est-ce que vous avez trouvé une communauté francophone ici au sein de la franc-maçonnerie torontoise ?
J'ai trouvé, puisque je suis arrivé ici avant Guéry, j'ai trouvé une obédience ici à Toronto, qui est le droit humain, qui entre parenthèses est une obédience mixte. Donc cette obédience travaille au même rite, c'est-à-dire le rite écossais ancien et accepté, que la Grande Loge de France. C'est pas tellement une surprise, puisque le rite écossais ancien et accepté, c'est le rite le plus pratiqué au monde. Nous sommes frères visiteurs de cette obédience, puisque nous appartenons, entre guillemets, appartenant à la Grande Loge de France, et on ne peut qu'être visiteur. Voilà. Donc il y a une entente entre ces deux obédiences, Et ma foi, ça se passe très bien et on est vraiment très heureux. Il y a des frères et des sœurs canadiens, il y a des Québécois, il y a des Français, il y a des Mauriciens.
Il y a un peu de tout.
Donc, on se réunit avec grand plaisir.
Et pourquoi, selon vous, la franc-maçonnerie reste encore entourée de mystères ou de méfiance, du coup?
Je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent et je pense que c'est bon d'éclaircir ce point. D'abord, la franc-maçonnerie se revendique comme une société non secrète, mais une société discrète. C'est une différence. Il ne faut pas faire d'amalgamation avec le secret et la discrétion. Right? Le vrai secret, en fait, demeure sur le fondement de l'initiation, de notre cheminement initiatique dans notre vie de franc-maçon, right? La transformation possible du vécu psychologique qui ne regarde que chaque membre de cette obédience, chaque membre de cet ordre. Donc, peut-être les gens sont entourés de mystères, le voient mystérieux à cause de cette discrétion. Right? D'abord, il faut se poser cette question. Les francs-maçons, doivent être libres et de bonne mœur. S'ils sont des membres qui sont libres et de bonne mœur, qu'est-ce qu'ils vont se faire à l'intérieur de ce temple? Ils ne vont pas faire du tort. Ils vont faire que du bien. Mais le fait qu'il y a des non-membres qui ne savent pas ce qui se passe, ils peuvent se laisser traîner leur imagination sur beaucoup de choses qui sont peut-être probablement pas vraies.
À travers les siècles, la franc-maçonnerie, elle a été très largement détractée. Il y a une espèce d'omerta qui s'est plaquée sur la franc-maçonnerie. Elle est donc adogmatique. Et bien entendu, elle a semé un courant qui était un petit peu contraire aux idées monothéistes. Après, pour en revenir sur la discrétion, il y a beaucoup de choses qui ont amené la franc-maçonnerie à devenir discrète. Et c'est là la grande différence qu'il y a entre la franc-maçonnerie nord-américaine et la franc-maçonnerie européenne. C'est que pendant la dernière guerre, les francs-maçons ont fait partie des gens qui ont été persécutés par les nazis. Leurs chercheurs se sont mépris sur la teneur des documents qu'ils ont confisqués. Puisque bien entendu, quand on n'est pas franc-maçon et qu'on lit des textes francs-maçons, ça peut être soumis à interprétation. Pourtant, Dieu sait si, je dis Dieu, c'est une expression qui est dans notre langage, mais les bases de la franc-maçonnerie relèvent de principes fondamentaux très importants, quoi. On prône la tolérance, comme il est dit dans la déclaration de principes. On fait fi des opinions politiques et de la religion des gens, comme l'a dit Guérich, pourvu qu'ils soient libres et de bonnes mœurs. Donc la franc-maçonnerie en Europe, elle a été persécutée. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu les relents de cette époque qui fait que, en Europe, on ne s'affiche pas franc-maçon.
Loin des fantasmes, la franc-maçonnerie reste, pour ses membres, un chemin de recherche et de sens. Ici Annette Minka pour l'initiative de journalisme local à Toronto.